Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.
Semaine 4 sur le sujet de l'argent. Et ma première question pour vous, c'est comment ça va? Ça va? Donc Yoann, il a froid. Est-ce que vous tenez le coup avec ce sujet? Est-ce que ça va? C'est un sujet assez étonnant qui a tendance à nous travailler. L'argent est un sujet qui est finalement assez fondamental dans nos vies. Et donc c'est bon de laisser le temps à Dieu de venir et de nous enseigner un peu sur comment ça peut être. Et j'étais en réunion avec quelques-uns des anciens cette semaine. On préparait la suite, les prédications qui vont venir. Et on faisait un peu le bilan sur cette série sur l'argent. On s'est dit, waouh! En fait, je pense que nous, on est les plus travaillés par cette série. À force de le travailler, à force de voir ce que la Bible nous enseigne sur l'argent, on ne peut pas rester indifférent. Et donc, j'espère qu'ensemble, on ne restera pas indifférent à ça sur le sujet de l'argent. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est parfois un peu touchy, un peu qui peut mettre mal à l'aise, c'est le sujet de donner à l'Église. Voilà, sujet qui évoque plein de choses pour différents gens. Il y a des gens où c'est un sujet, vous avez déjà fait le tour, vous savez ce que vous pensez par rapport à ça, vous êtes en paix par rapport à ça, et tranquille, ça va, vous êtes à l'aise là, ok, on va parler de donner à l'Église. C'est sympa. Pour d'autres, c'est un nouveau concept. Peut-être qu'il y a quelques personnes ici, vous n'avez jamais entendu parler de ça, ou vous avez entendu parler que peut-être l'Église catholique parfois fait des appels à dons ou des choses comme ça, mais c'est un peu nouveau ce concept pour vous. Il y a peut-être aussi des gens qui ont eu des expériences positives dans le passé, mais aussi des gens qui ont eu des expériences assez négatives sur l'idée de donner à l'Église. Et même, on pourrait même imaginer qu'il y a quelques personnes ici qui ont vécu des traumas à ce niveau-là dans l'Église. Des abus d'autorité, des mauvaises gestions des finances, des cultures autour de l'argent et le don à l'Église qui sont malsaines. C'est des choses qui arrivent. Il y en a peut-être parmi nous qui ont vécu ces choses-là. Et je pense que c'est important, alors qu'on entre dans le cadre de ce sujet, qu'on se dit et qu'on se rappelle qu'on est influencé. Notre compréhension de ce sujet a été bâtie par nos expériences du passé, ou le manque d'expériences passées. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse rester ouvert et essayer de... Ouais, laissez une place à Dieu de nous enseigner dans ce domaine-là. C'est important de dire aussi qu'on vit un moment assez particulier dans le monde en ce moment, mais surtout dans le monde occidental, où on assiste à une baisse de confiance dans les institutions. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux dire. On a de moins en moins confiance dans l'État, dans l'éducation nationale, de moins en moins confiance dans les institutions, les ONG par exemple, les grandes entreprises. On vit dans un climat où on se méfie des grandes puissances, ceux qui ont du pouvoir. Et cette méfiance se transpose aussi sur l'institution de l'Église, si vous voyez ce que je veux dire. On voit souvent dans le monde l'Église comme une grande organisation qui a des buts, des objectifs, même politiques parfois, et on se méfie d'elle, on se méfie de ce qu'elle pourrait dire et ses ambitions. Et je pense que c'est important d'être conscient de ça aussi. Si quelqu'un vient devant vous et dit « bah oui, c'est une bonne idée de donner de l'argent à l'Église », pour certains d'entre nous, je pense que notre réaction c'est « ah non, je suis pas très à l'aise avec ça ». Bref. On vient avec un bagage pour qu'on soit conscient de ça. Et j'ai eu l'impression, en préparant cette prédication, en fait, mardi, j'avais fini un bon bout de prédication. J'ai prié à la fin de la journée et j'ai senti que le Seigneur me disait de jeter ce que j'avais fait. Pour être concret, j'ai lundi, mardi où je bosse pour l'Église. Donc mardi soir, de tout jeter, c'était un petit coup de flip pour moi. Mais je pense que c'est important parce que je pense que ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui, ce n'était pas tellement un sujet classique sur le don, mais que son dire, c'était d'attirer notre attention en fait à son cœur pour son Église. Parce que notre vision du but de l'Église, notre vision de la place que l'Église occupe dans le cœur de Dieu, notre vision finalement peu institutionnelle de l'Église, a un grand impact sur notre envie, notre volonté de donner et d'être généreux envers l'Église. Si l'Église pour toi est un bâtiment, un loyer et des charges à payer, bah forcément ça en donne comme si on donne à une organisation qui a des loyers à payer. Ou si l'Église, par exemple, c'est un événement social, on vient, on est bien, nos enfants sont pris en charge, il y a un petit déjeuner super derrière, bah ok, c'est sympa, et on donne en conséquence de ça. Mais si l'Église est la réponse de Dieu à un monde qui est en souffrance, si l'Église est l'expression locale que Jésus a choisi de manifester, par laquelle il a choisi de manifester son royaume, si les ministères qui s'expriment ici font la différence entre la vie et la mort des gens, bah notre vision sur le don à l'Église, bah elle n'est pas exactement pareille. Notre don ne peut pas rester indifférent. Et une trop petite vision finalement de l'Église nous rend notre don petit. Une grande vision de l'Église allume un feu en nous de faire avancer le royaume de Dieu. Et on met en œuvre nos finances pour permettre ça. Voyez l'idée. Amen. Merci Adrien. Amen. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, on va explorer ce sujet, on va comprendre un peu plus. Et la première question qu'il faut se poser, c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église en fait? Je sais pas s'il y a des idées, Alan, tu dirais quoi? Le corps de Christ, ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Église, d'autres idées, pardon. Ceux qui aiment Dieu, ok. Le corps de Christ qui s'unit entre eux, yes. C'est nous. Ah, pas mal, oui. Comment? L'épouse, oui. L'ambassade du royaume. Vous venez de faire ma prédication, vous deux, merci. Ça rime. Une maison. Plein de choses qui sont évoquées et je suis encouragé parce que toutes ces choses sont vraies, ce qui ont été dit. Et je pense que de manière un peu générale, si on veut avoir une sorte de définition sur ce qu'est l'Église, c'est l'assemblée de toutes les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, passé, présent et futur. L'assemblée de toutes les personnes de tous les temps qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, passé, présent, futur. L'Église, une foule immense de personnes de toutes les nationalités, de toutes les langues, de toutes les générations, rassemblées par une chose, Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés par lui, on forme un seul corps ensemble, mis à part pour Dieu, pour le servir, pour l'aimer, rassemblés par le sang de Jésus. C'est ça l'Église, des Français, des Anglais, des Algériens, des Taïwanais, des Chinois, des Russes, des Ukrainiens, des Israéliens, des Palestiniens, une foule de personnes de nationalités différentes qui sont mises ensemble par une chose, le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui nous réunit, c'est ça qui fait de nous l'Église aujourd'hui, un seul corps. Et l'apôtre Paul illustre l'immensité de Dieu dans certains de ses écrits, l'immensité de l'amour de Dieu, pardon, envers l'Église. Il utilise l'image en Éphésiens 5, 20, d'une épouse, 5, 32, pardon, plutôt. Et il nous montre que l'Église, la manière que Dieu voit l'Église est comme un marié qui regarde sa mariée, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne sais pas pour vous, quand on est dans un mariage, je trouve que le moment le plus bouleversant souvent, c'est le moment où entre le cortège. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier mariage dans lequel vous étiez. Il y a un moment un peu, tout le monde est là, dans l'attente, il y a un peu de stress, il y a les garçons d'honneur qui courent dans tous les sens. On attend l'arrivée du cortège et souvent une demi-heure en retard, une quarantaine de minutes en retard. On ne sait jamais. Le cortège commence à arriver. Et là, les garçons d'honneur, les demoiselles d'honneur, ils rentrent. On a la famille qui rentre aussi, les parents qui rentrent. Mais on n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour l'entrée de la mariée. Et ces moments sont toujours durs à expliquer, mais tout le monde se lève, se tourne, commence à faire « Ah, waouh !» Et on commence à voir une personne qui arrive, souvent habillée en blanc dans nos cultures, qui commence à entrer et tout le monde fait des exclamations. On est tous éblouis par la beauté de la mariée. Et souvent, il y en a qui versent des larmes. Moi, ça me touche toujours, ces moments-là. On ne peut pas rester indifférent à ça. Et la réalité qui est décrite dans ce que Paul dit, c'est que Dieu voit l'Église comme une mariée, et pas n'importe laquelle, c'est son épouse, en fait, comme on vient de dire. L'Église est l'objet de l'affection de Dieu. L'Église, Dieu l'aime comme nul autre, en fait. Il a que des yeux pour elle. Il la regarde, il a de l'amour pour elle. Tout son cœur est rempli d'affection pour elle. L'Église est son projet. Quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour la vie. L'Église, ce corps international, c'est le projet de Dieu. Dieu aime l'Église telle la mariée aime sa femme. Il est fidèle envers elle. Il est passionné par elle. Il veut prendre soin d'elle. Et il faut qu'on comprenne que l'Église, avant tout, n'est pas une institution, ni une dénomination, mais elle est le projet de tous les temps de Dieu. Un peuple selon son cœur, un peuple qui peut aimer, un peuple qui peut bénir, un peuple dont il peut prendre soin et amener dans l'éternité avec lui. L'Église est son épouse, mis à part pour lui. Est-ce que tu as une grande vision de l'Église? Est-ce que c'est comme ça que tu sens par rapport à l'Église? Est-ce que peut-être ton cœur est en train de s'orienter vers un amour pour son peuple? Un amour comme le sien pour son peuple? L'Église, l'assemblée de toutes les personnes de tous les temps qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, passé, présent, futur. L'Église est belle dans cette définition-là et dans le contexte de l'amour de Dieu pour l'Église. Et de la confiance qu'il met dans l'Église. Deuxième point, merci Michel. Il confie à son Église une responsabilité. Il confie à l'Église de l'autorité. Il confie à l'Église le privilège de le représenter sur terre. Amen. De Corinthiens 5, 20. Nous faisons fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Nous sommes comme des ambassadeurs. Et un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est envoyé. Envoyé avec l'autorité de son pays pour représenter ce pays-là. Nous sommes ensemble, en tant qu'Église, les ambassadeurs du Christ. Il nous envoie avec son autorité, nous envoie avec sa puissance, son amour, pour pouvoir le représenter vis-à-vis des gens qui nous entourent, pour pouvoir le représenter ici à Paris et jusqu'au bout de la terre. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas, mais il y avait débat il y a quelques années dans les milieux des églises au sujet du royaume de Dieu. Il y en avait qui disaient à cette époque-là qui découvraient le concept du royaume de Dieu, cet enseignement, et qui disaient bah, finalement on n'a pas besoin de l'église, il faut qu'on serve le royaume de Dieu. Et de l'autre côté, on avait des gens dans l'église qui disaient oula. C'est quoi cette théologie? Non, on a besoin de communauté, on a besoin d'être ensemble. Et souvent, ce que j'entendais dans les gens qui se disaient « Non, il faut qu'on serve le royaume de Dieu », c'était bah, finalement, l'Église n'était pas en train de faire vraiment ce qu'elle devrait faire. L'Église ne guérissait pas les malades, l'Église n'avait pas d'action sociale pour aider les pauvres, l'Église était comme un peu coincée entre elles, quoi. On vit un bon moment au culte et on ne va pas dans le monde. C'est un reproche qui a la vérité dedans. Et du côté de l'Église, ce que j'entendais, c'est « Ah ben ces gens-là, ils ne veulent pas être en communauté en fait. » Et ça, c'est finalement pas biblique. Et ces gens-là, ils ne veulent pas aussi vivre dans le contexte d'autorité qui est mis en place dans une Église. Et ça, peut-être, ce n'est pas biblique. Et finalement, c'est des électrons libres, ces gens-là. Et j'entendais un peu ces deux parties, c'était il y a un certain nombre d'années. Et je pense parfois des deux côtés, il y a un problème avec notre théologie sur le royaume de Dieu en fait. Parce que le vaisseau du royaume de Dieu, la chose que Dieu a choisie pour porter son royaume aujourd'hui sur la terre, c'est qui? C'est l'Église. L'Église est censée être les mains et les pieds de Jésus qui prie Seigneur, que ton règne vienne ici sur la terre comme au ciel, qui dit, Seigneur, viens, que ton royaume puisse venir ici sur terre. C'est une église qui dit, Seigneur, que ton esprit est sur nous pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Tu nous as envoyés pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Tu nous as appelés à annoncer aux captifs leur délivrance. L'église est de ceux qui se disent le royaume de Dieu doit venir comme Jésus l'a annoncé et nous sommes le vaisseau aujourd'hui. Nous sommes ceux qui portent le royaume. Et nous allons dans le monde pour apporter la bonne nouvelle de Jésus, pour prier pour les malades, les voir guéris, pour prier à ce que les gens qui sont captifs dans la pensée, dans les choses spirituelles, qui puissent être libérés, pour qu'une foule immense puisse entrer dans la liberté que Jésus a prévue pour ce monde. L'Église, ambassadeur du Christ, ensemble porteur du royaume envoyé avec l'autorité de Dieu. C'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un qui est malade, petit aparté, on ne prie pas « Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux guérir cette personne ?» On prie, non, le Seigneur, il nous a donné son autorité, et donc je vais dire à cette maladie, avec l'autorité de Jésus, pars au nom de Jésus, tu n'es pas le bienvenu, royaume vient, Seigneur, amène ton royaume ici maintenant. Nous portons l'autorité de Jésus-Christ quand nous allons dans le monde. C'est pour ça aussi, quand on annonce l'Évangile à nos collègues, quand on parle de l'Évangile, qu'on n'a pas à rougir de dire que Jésus est mort et puis il est ressuscité. Amen. Parce qu'en fait, c'est vrai. C'est vrai et c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et nous portons la puissance de Dieu, nous portons l'autorité de Dieu là où nous allons dans le monde. C'est ça l'Église aussi, les amis. L'Église, ce n'est pas juste un rassemblement de dimanche. Nous sommes un peuple envoyé avec autorité dans le monde. Donc prions pour les malades, partageons l'Évangile là où on va. Je me souviens d'une histoire que Andy Merrick, qui nous a visité il y a un certain nombre d'années, nous a partagée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Andy Merrick, c'est un gars qui menait une église à Glasgow, en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon. Où j'ai eu chaud. Il y a un Écossais que je connais dans la pièce. Et j'ai failli faire une erreur mortelle. J'espère que tu me pardonneras. C'était un lapsus. Au Royaume-Uni, en Écosse. Donc, il mène une église là-bas. Et le Glasgow, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, c'était une des villes, en tout cas, avec le plus haut taux de criminalité dans le Royaume-Uni. Un lieu compliqué, avec un contexte social assez difficile à vivre. Et il a raconté comment pendant un certain nombre d'années dans l'église, ils se sont dit, on va chercher le royaume de Dieu, quoi. On va chercher ça en premier. Ils se sont mis à faire ça. C'était le cri de leur cœur. C'était leur désir, leur cri de cœur. Et ce qui s'est passé, ce qu'il a raconté est assez étonnant parce qu'il nous a raconté que pendant ces années de recherche du royaume de Dieu, il y a eu une baisse du taux de criminalité d'assez important dans la ville, de à peu près 20%. Donc je suis allé vérifier ces chiffres et c'est vrai, il y a eu une baisse de 20% de taux de criminalité dans cette période-là qu'ils ont raconté. Et je pense qu'il y en a parmi nous qui diraient « Ok, bah, très bien, une église qui fait ça, mais ça doit être d'autres facteurs aussi, ça doit être juste les circonstances qui ont fait que. » C'est le cynique en nous qui se réveille un peu souvent quand on entend des choses comme ça. Mais franchement, les amis, honnêtement, personnellement, je crois que si le royaume de Dieu fait vraiment éruption dans une ville, je trouve que c'est normal que des choses comme le taux de criminalité descendent. Que le nombre de choses mauvaises qui n'honorent pas Dieu, ils puissent descendre et qu'à la place de ça, on commence à voir des choses qui honorent Dieu. Je pense que c'est normal quand le royaume de Dieu fait éruption autour de nous, que les choses changent. Le monde ne peut pas rester indifférent quand Jésus-Christ lui-même vient et il change des choses. Est-ce qu'on est conscient de cette autorité? Est-ce qu'on est conscient du fait qu'alors qu'on va chercher le royaume de Dieu ensemble, on peut s'attendre à ce que la société soit transformée? C'est ça aussi l'Église. Puissance, autorité. Jésus nous a dit, allez dans le monde entier, faites de tout, des disciples parmi tous les peuples, ça dépend de la traduction qu'on a. Baptisez-les, enseignez-leur. Allons dans Paris, ses alentours, dans tout le monde, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre appel parce que nous sommes l'Église et que Dieu nous aime et il nous envoie. Ésaïe 61, c'est écrit « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance. » L'Esprit du Seigneur est sur nous, ensemble. On a passé un moment ensemble tout à l'heure à prier. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas initiés à ces moments où on attend. On s'attend à Dieu, on s'attend à ce que son Esprit soit là, que Dieu se manifeste. Ne vous inquiétez pas, c'est rien d'anormal, c'est Dieu juste qui veut venir à notre rencontre. Et quand l'Église ensemble se met à chercher Dieu, c'est normal que Dieu répond. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu il s'approche de lui. Et donc en tant qu'Église, quand on passe ces moments, attendons-nous à ce qu'il vient, qu'il nous remplit, qu'on se rend compte de sa puissance, qu'on se rend compte de ce qu'il a mis en nous et qu'on soit envoyé dans le monde pour annoncer une bonne nouvelle. Vous avez compris, l'Église, pas tellement une institution, plus le peuple de Dieu, l'épouse de Christ et les ambassadeurs de Christ. L'Église. Et donc, c'est quoi finalement le rapport avec l'argent? Tout finalement. Tu nous parles, Église, autorité, puissance, blablabla. C'est quoi le rapport avec l'argent finalement, Ben? Ben, on l'a dit au début, hein, quand on a une petite vision de ce que c'est l'Église, on dorme pour des petites choses. Quand on a une vision plus grande de l'Église, il y a un feu qui est allumé en nous pour utiliser nos finances pour faire avancer le royaume de Dieu. Et à CVV, notre cœur, notre cri de cœur, c'est d'être une Église qui sont porteurs ensemble du royaume de Dieu ici à Paris et jusqu'au bout de la terre. C'est ce que nous voulons être ensemble. Nous ne sommes pas juste un club social. Je suis désolé, je deviens passionné quand je parle de l'Église. Ça me bouillon dans mon cœur. Nous voulons être des porteurs du royaume et ça se reflète dans la manière qu'on gère nos finances. Ça se reflète dans nos priorités financières en tant qu'Église et nos projets d'avenir doivent être formés par ces priorités-là. Sinon, on va juste devenir un petit club entre nous, quoi. Et j'avais à cœur juste de partager quelques exemples des finances actuelles de CVV pour vous illustrer un peu c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui. Et vous parler un peu du cœur aussi de l'année prochaine, un peu où, comment on veut mettre en œuvre cette vision de l'Église via nos finances. Donc, juste un premier point. Actuellement, à peu près 20% des dons et des offrandes qui sont donnés à CVV servent à payer le loyer, les loyers, l'utilisation le dimanche, mais aussi en semaine de ce lieu ici, mais aussi pendant un temps, depuis c'est un peu différent à Sud-Est, mais aussi le lieu où ils avaient. À peu près 20% de ce qu'on dépense, c'est ça. 15% de ce qu'on dépense nous permet de vivre aussi de la communion ensemble. C'est le week-end d'église, un événement qui a un certain coût. C'est des événements comme le fait des 15 ans de CVV, c'est les moments festifs où on se rassemble. C'est aussi quand nos équipes différentes se rassemblent aussi et prennent un repas ensemble, par exemple. Je sais que particulièrement l'équipe de Louvain, j'aime bien faire un repas de Noël, notamment, pour vous donner des idées pour les autres équipes. Bref, on vit la communion, on mange ensemble, on passe du bon temps ensemble. C'est 15% de ce qu'on dépense, c'est important, c'est prioritaire dans la vie d'église. Mais aujourd'hui, une partie grandissante, ça a trois choses. Premièrement, financer la mission, ici, mais aussi au bout de la terre. Ça sert à aider les pauvres qui sont parmi nous, ceux qui n'ont rien, ceux qui se trouvent dans des situations désastreuses, l'église aide. Et troisièmement, on sert aussi à libérer des personnes, des responsables ou des personnes pour mener l'Église et pour l'administrer. Une bonne partie finalement de ce qui est dépensé par l'Église sert à libérer des jours de travail en semaine pour pouvoir faire avancer cette Église, sur le plan du leadership et sur le plan administratif aussi. Et donc ces trois choses forment à peu près 2/3 de ce qu'on dépense en tant qu'Église. Donc c'est une majorité, la part de payer les gens qui bossent en semaine, c'est une part plus grande notamment. Et je voulais vous donner trois exemples concrets de ces trois choses-là pour essayer de nous illustrer un peu ce qu'on fait, mais aussi où on veut aller sur la prochaine année. Donc au niveau de la mission, j'ai parlé de la mission ici, j'ai parlé de la mission plus loin, jusqu'aux extrémités de la Terre. On a un budget local qui permet à mettre en place des initiatives de mission ici à Paris et à soutenir des missionnaires qui sont parmi nous. C'est un budget en 2023, c'était autour de 9000 euros pour ça. Et en 2024, notre cœur, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, mais aussi un parcours alpha qui doit s'organiser, c'est qu'on puisse augmenter ce budget mission. En fait, avec notamment les JO 2024, on a une opportunité de dingue parce qu'il y a plein d'autres églises qui se mettent en mouvement pour faire des actions d'évangélisation autour de ces événements-là. Il y a Jeunesse en Mission qui se lance là avec un gros projet de fédérer plein d'églises différentes. On veut participer à ça pleinement, on veut organiser aussi, on veut financer s'il faut aussi. On aimerait participer à cet élan missionnaire un peu sans pareil dans les dernières années qui va y avoir lieu à Paris l'été prochain. Et on veut pouvoir se mettre en action, on veut pouvoir faire ça. On a besoin de fonds pour ça, pour être cette église qui était envoyée ici à Paris, premier exemple. Mais nous soutenons aussi des missionnaires qui sont loin. On n'est pas juste là pour faire nos petites activités entre nous. Il y a une mission, il y a des missionnaires qui font des choses incroyables au bout de la terre, dans des endroits assez compliqués. On soutient notamment un projet missionnaire de Jonathan et Flore, qui sont des Suisses, qui sont en Haïti. Donc vous savez, le contexte social en Haïti, très très compliqué depuis l'assassinat, je crois, du président. Un certain nombre de choses, enfin bref, vraiment un contexte compliqué. Ils sont là-bas en train d'essayer d'aider les pauvres, en train d'essayer d'être une lumière là-bas. On les soutient financièrement. Un autre exemple, Benjamin et Mariette Sellé, donc le frère Benjamin de Adrien et Yann qui sont dans cette église. Ils sont au Somaliland, on dit comme ça, avec un projet missionnaire entrepreneuriat assez super intéressant, mais dans un contexte vraiment dur, en ce moment particulièrement dur. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Et on les soutient, on veut les soutenir plus. On veut aider ce genre de personnes qui sont dans des contextes compliqués comme ça. Il y a les Gaudins aussi qui sont au Burkina Faso, nos amis là-bas, qui servent aussi dans une mission là-bas, qui apportent leurs connaissances dans des centres là-bas. Nous avons aussi eu l'opportunité ces dernières années de donner via notre réseau d'églises Catalyst pour des crises dans le monde. Donc je me souviens, c'était avec Beyrouth par exemple, on a levé des fonds pour ça. Bref, un certain nombre d'événements, comme ils sont connectés avec... Il y a des églises catalystes en Turquie, dans l'Afrique du Nord, dans l'Europe de l'Est, etc. Ben, on soutient via ce réseau aussi la mission qui se passe. Si on se veut être une église généreuse, il faut qu'un certain montant des offrandes, des dons qui arrivent dans l'église, on puisse les donner aussi librement. Il faut que nous puissions être généreux envers ceux qui ont besoin dans le monde. On aimerait être une église qui sait être généreux, qui peut être de plus en plus généreux envers le monde. Amen. Merci Adrien. Yes, amen. Et le Togo, en effet. Merci pour le rappel. J'ai mis dans mes notes, et il y a d'autres choses aussi, bref, mais le Togo aussi, nos amis Timothée et Keren, qui ont déménagé là-bas il n'y a pas longtemps, qui ont mission surtout entrepreneuriale, mais sociale aussi du côté de Keren. Et c'est des gens, on prie pour eux, on voulait les soutenir aussi. Bref, beaucoup de choses, des soutiens qui se font dans le cadre de vraies relations aussi. On veut les connaître, qu'ils puissent aussi nous parler de leur projet, c'est important. Donc on veut pouvoir soutenir de plus en plus ces personnes et pourquoi pas d'autres aussi. Troisième petite illustration sur comment ça se passe et tout ça dans l'église. CVV a toujours eu la chance de bénéficier de personnes à plein temps qui ont pu se consacrer à l'enseignement de l'église, à la conduite de l'église, à faire le travail qu'il y a à faire derrière les coulisses, à diriger les affaires de l'église avec succès. Gordon, qui a fondé l'église avec Johan et Georges, grâce à sa retraite, en fait, il a pu être à plein temps pour l'église. Johan a pu être en plein temps, en partie, heureusement, ces derniers temps, payé par l'Église, mais aussi beaucoup de travail fait en dehors du cadre de ce qui a été payé par l'Église. Énormément de travail. À un certain temps aussi, c'était Nathan qui était à 80% pour l'Église, c'était un autre qui faisait vraiment un travail pastoral dans l'Église. On a toujours bénéficié en fait de gens qui ont vraiment pu se consacrer à nous aider à devenir l'Église qu'on doit devenir. Et en 2024, on entre dans la première saison de la vie de notre Église, où le responsable avec le plus de temps à dispo en semaine pour l'Église n'a que 2 jours par semaine pour l'Église. Donc c'est moi. J'ai 2 jours par semaine pour l'Église. Et Thomas, donc un des autres anciens, il a 1 jour par semaine pour l'Église. Comment vous dire ? Il faut qu'on arrive à débloquer du temps chez les responsables, mais aussi chez d'autres personnes qui sont appelées à vraiment faire partie de cette équipe. Nous devons débloquer du temps pour que les gens puissent se consacrer à mener cette Église, à nous conduire, qu'on puisse avoir de l'impact. Parce que ce qu'on ne veut pas dans cette prochaine saison, c'est juste devenir une Église qui fait ses activités, qui reste entre nous et qui n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à toucher des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et pour ça, il y a besoin de temps. Et la plupart des responsables, ils font ça le soir et le week-end. On a besoin de débloquer du temps en semaine. Et l'encouragement que j'ai envie de nous donner, c'est comment est-ce qu'en tant qu'Église, on peut faire corps pour que plusieurs personnes puissent débloquer peut-être des petits bouts de temps, peut-être c'est des plus grands bouts de temps, il faut qu'on prie pour la stratégie. Mais il faut qu'on réussisse à débloquer quelque chose dans cette année qui vient pour l'avancée du royaume et pour l'avancée de cette Église. Pour être très transparent, on a besoin de faire corps ensemble. Et je pourrais continuer et parler de plein d'autres domaines dans la vie de l'Église où le don, l'offrande trouve son sens. Mais je crois que vous avez compris. Et si vous êtes vraiment intéressé par cette partie de l'Église, on a 2 associations, on a des assemblées générales, on a des moments où on passe du temps à discuter de ces choses-là. Il y a des contextes pour ça et on peut en parler ultérieurement. Mais vous avez compris, je pense. L'Église a une grande mission, et CVV aussi en fait. On aimerait croire qu'on peut faire la différence ici à Paris et dans sa région, et pourquoi pas à plein d'autres endroits en France et partout sur la Terre. Et donc votre don, nos dons, notre offrande, ça participe à ça. Ça participe à faire avancer l'Église, c'est même moteur parfois. Vous savez, parfois la meilleure manière de servir une Église, c'est aussi de donner. On peut être dans une équipe, on peut faire plein de choses, mais le fait de soutenir financièrement, ça nous aide aussi à avancer. Et donc, pour être assez clair et transparent, on aimerait faire 2 invitations ce matin. Premièrement, si ça fait quelque temps que vous êtes là ou vous n'êtes pas là depuis longtemps, vous ne donnez pas encore à l'Église, déjà, pas de souci, il n'y a pas de pression dans cette Église par rapport à ça. Mais on aimerait vous inviter à considérer l'idée de donner régulièrement à l'Église, à soutenir... Merci Adrien. Je ne suis pas très pentecôtiste personnellement, je suis un mec un peu calme, mais c'est bien. Amen, alléluia, on y va. Let's go. On aimerait vous inviter à considérer sérieusement, est-ce que vous serez partant de vous engager à donner régulièrement à l'Église? Il y a certains parmi nous qui utilisent les 10% qui se trouvent dans l'Ancien Testament, la dîme, comme une valeur de référence. J'ai plutôt envie de vous dire, décidez dans votre cœur avec Dieu. Prenez du temps pour prier, pour considérer cette idée et voyez ce que le Seigneur vous met à cœur dans le don à l'Église. Ça peut être très petit, ça peut être extravagant. Décidez dans votre cœur. C'est ce que 2 Corinthiens 9 nous enseigne notamment. Et deuxième invitation, c'est si vous donnez déjà régulièrement à CVV. Il y a beaucoup d'entre nous, comme j'ai dit, qui se basent sur les 10% par exemple, où il y en a qui font plus, qui font moins, il y a la diversité selon les capacités des gens. Ce qu'on aimerait faire comme invitation, c'est vous inviter à considérer si le Seigneur vous encourage à prendre un pas de foi dans ce domaine-là. Moi, je sais que ça fait très longtemps, je donne à peu près le même taux. Personnellement, je suis mis au défi, alors qu'on parle de générosité, il ne faut pas que je stagne en fait, dans mon don. Il y a des moments parfois, surtout quand on est inquiet pour l'argent d'ailleurs, il y a des moments de prendre un pas de foi et de dire « Ok, ce mois-ci, je vais être un peu plus généreux » ou « Je vais même augmenter mon don ». C'est selon comment l'Esprit nous invite dans nos cœurs. Donc c'est la deuxième invitation. Donc l'invitation générale, c'est qu'on prenne un temps ensemble en tant qu'Église, tous, même nous en tant que responsables, de considérer qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans cette saison à ce niveau-là. Et ce qu'on va faire au niveau pratique, c'est qu'on va envoyer un mail un peu plus tard dans la semaine en donnant les modalités pratiques. Donc si vous désirez prendre un pas dans cette direction-là, bah, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut, je ne vais pas vous les expliquer maintenant, de prendre ce pas, si vous souhaitez. C'était les deux invitations que vous voulez faire, parce qu'on croit à une grande vision pour l'Église, on croit que le Seigneur nous appelle à faire des choses dans les années à venir, et on vous invite ensemble à faire corps et aller ensemble dans cette direction-là, ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es tellement généreux envers nous, tu nous aimes tellement, et tu nous as confié une mission qui est tellement beau, tellement dingue finalement, que tu nous fais participer à ça avec toi. Et Seigneur, que ton Église s'inscrit dans cette mission et que nos finances puissent refléter ça, Seigneur. Et on demande, alors que nous considérons ensemble notre offrande, je prie, Seigneur, que tu viennes et tu nous parles cette semaine, que ça puisse être une affaire de joie et de générosité dans nos cœurs, que nous puissions considérer que ce que nous avons vient de toi de toute manière, et que si on donne, on peut s'attendre aussi à ce que toi tu pourvois à tous nos besoins aussi. On s'attend à toi, Seigneur, et on veut être cette Église généreuse qui a de la joie à donner. Seigneur, on te remet nos peurs, nos craintes vis-à-vis de l'argent. On te remet nos déceptions vis-à-vis de l'Église aussi. On prie, Seigneur, qui est ici à ce lever, que tu puisses conduire les choses, que tu puisses faire de nous un corps qui aime et qui est généreux. En ton nom, Jésus. Amen.
Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.